Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Stéphane Breyer, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation pour les auditeurs de Canal Académie. Vous êtes juge à la Cour suprême des États-Unis depuis 18 ans et nous sommes très honorés de vous recevoir à quelques jours de votre installation sous la coupole de l'Institut de France au sein de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous allez en effet être installé comme membre associé étranger de l'Académie des sciences morales et politiques le 8 avril 2013 au fauteuil de l'archiduc Otto von Habsbourg dont vous ferez l'éloge. Vous serez accueilli par votre confrère de la section juridique Gilbert Guillaume, juriste de droit international qui a été président à la Cour internationale de justice de 2000 à 2003. Pour vous présenter en quelques mots, je précise que vous êtes né en 1938, que vous êtes diplômé des universités d'Oxford et d'Harvard, que vous avez été nommé à la Cour suprême par Bill Clinton, que vous avez mené une triple carrière judiciaire, administrative et universitaire. Vous avez effectivement enseigné à Harvard le droit administratif pendant plusieurs années. Et vous êtes l'auteur en anglais d'ouvrages sur la dérégulation et sur le droit d'auteur.
J'ai écrit deux livres en français. Pas écrit alors, en français, mais plus important que ça, probablement. Oui. C'est Active Liberty, Making Democracy Work.
Oui.
A judge's view. D'accord. Mais en français, c'est la Cour suprême des États-Unis et c'est publié par Madame
Disciplina. Odile Jacob.
Ah, oui, oui. Pardon. Mais on peut dire que ces deux livres sur la Cour suprême peut-être a plus d'intérêt, mais aussi des autres livres. J'ai écrit des autres livres sur des sujets plus techniques parce que le premier deux sont pour un auditoire, pour des citoyens ordinaires qui ne sont pas des spécialistes. Mais les autres livres sont pour des techniciens.
Alors, une dernière chose, on vous classe parmi les libéraux au sein de la Cour suprême, c'est-à-dire que vous êtes plutôt apparenté au Parti démocrate ou pas?
Ça ne fait rien quand on est juge, on essaie à juger, à trancher les affaires. C'est pour les autres de faire des classifications.
D'accord.
Et les journalistes l'adorent.
Voilà, j'en fais partie donc. Mais j'ajoute simplement que votre nomination a été couronnée par une confirmation éclatante au Sénat, puisque vous avez été confirmé dans cette nomination par 89 voix contre 9, ce qui est, je pense, assez rare. Alors, monsieur le juge, vous êtes un parfait francophone. Où avez-vous appris la langue française?
Merci pour le compliment. Je ne suis pas du tout parfait francophone. Je ne saurais jamais. Mais quand j'avais, je crois, 18 ans, j'ai passé un été à Besançon, que j'adorais. C'était admirable, c'était parfait. Et après, j'ai passé deux étés en France à faire des stages quand j'étais à l'école de droit. Et il y a peut-être 20 ans, parce que je suis un peu compulsive, et avec l'encouragement de l'ambassadeur Bujon Tétan, j'ai commencé à lire en français. Et chaque soir, je lis 15 minutes, 30 minutes peut-être. J'ai lu les classiques différents. J'ai lu les livres, ce que je peux trouver. Et j'ai écouté aux cassettes de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps. Et par ça, j'apprends le français. Et j'ai découvert que la civilisation est bien, bien différente. Et c'est pour ça que je m'adresse aux étudiantes. C'est merveilleux d'avoir la possibilité de parler, d'entendre un peu deux, trois langues, parce que c'est une ouverture à une civilisation différente, parce que nous sommes tous des êtres humains. Mais nous avons des moyens différents d'apprécier cette vie. J'explique aux étudiantes aux États-Unis qui posent la question, qu'est-ce que j'étudie si je veux être avocat avant l'école de droit, parce que c'est un sujet pour les gradués aux États-Unis. Je dis, il ne faut pas étudier le droit pour commencer. Et pourquoi pas les arts et les humanités? Parce que vous n'avez qu'une seule vie. Et ça, c'est la seule vie que vous connaîtrez parfaitement. Mais il y a d'autres personnes. Et avec la possibilité des romans, de la littérature, d'une langue différente, vous pourriez découvrir les vies des personnes différentes de vous et les comprendre.
Et quelle est votre plus belle émotion littéraire avec la langue française? Il y a un roman, une histoire, un écrivain, une page.
Oh oui, il y a tant des écrivains merveilleux en France. C'est différent, mais pour parler à moi comme avocat, comme juge,
oui.
Je crois que c'est Camus.
Camus.
Oui, oui, ah. Et je vais citer quelques langues.
D'accord.
Parce que pour quelqu'un de ma génération, il décrit parfaitement cette grande guerre contre le bacillus de la peste.
Oui,
oui, il est parfait. Mais pour un être humain, je crois qu'il faut lire Proust, parce qu'il y a tout en Proust, tout, sauf être père ou mère de famille parce qu'il n'avait pas des enfants. Mais sauf ça, il comprend très bien les différences, les temps, les diversités des expériences. Et pour savoir, les femmes et la politique, c'est Stendhal. Il comprend les deux parfaitement, évidemment.
Voilà, le fameux Stendhal qui préconisait d'être soi-même avant tout. Et
oui,
de se débarrasser
oui.
de toute hypocrisie, c'est
oui,
important
peut-être.
Aussi. Et à Besançon, vous avez dû
oui, certainement.
Lire
oui,
aussi et
oui,
découvrir
oui,
quelques mots.
Oui, c'est Hugo qui était né à Besançon.
Voilà, voilà.
Oui, et Hugo, c'est...
Alors,
et vous avez tant des écrivains merveilleux. C'est...
Oh, il y en a autant, oui. J'imagine, sur le continent américain. C'est une
oui, mais c'est différent. C'est absolument merveilleux, mais nous avons une ouverture directe à la poésie, au roman anglais.
Oui.
Et ça, c'est Shakespeare. Pour nous, c'est facile. Et évidemment, en français, ça ne traduit pas très bien, peut-être. Mais ça, c'est Shakespeare. Mais en France, vous avez des choses tout à fait différentes. Il y a une beauté de langue qui est différente de ce qu'on sent quand on est américain ou anglais.
Alors, puis-je vous demander ce qui vous a conduit dans votre vie à faire du droit?
Mon père était avocat en séjour. C'était habituel. On ne peut pas questionner exactement les désirs de la famille. Ou moins qu'aujourd'hui. Un jour, j'ai rencontré un grand juge africain. Et il avait une fille qui était amie de ma fille. Ils ont fait des amis. Et ma fille m'a dit, à l'âge de 8 ans, que l'autre lui a dit, « Pourquoi ne pas faire exactement ce que votre père dit ? Parce qu'il a vos intérêts à la cour, à la cœur. » Et je dis, « Très bien !» Je vais me déplacer en Afrique.
Alors, quel est votre plus fort sentiment d'injustice, pas en tant que juge à la Cour suprême?
Ça, c'est une question bien ancienne.
Mmh. Justice, c'est pas une question justice. Pour les juges.
Oh non, c'est pour les juges. Les juges essaient. Mmh. On est absolument heureux quand on trouve dans une matière très difficile, avec un texte qui est extraordinairement complexe, de découvrir qu'un vrai interprétation du texte et l'interprétation qui va faire de la justice entre deux, trois personnes qui sont dans cette affaire. C'est un effort de résoudre les différences et justice est toujours un grand objectif, mais pas direct, mais indirect.
D'accord. Alors, vous êtes membre de la Cour suprême. Est-ce que vous pourriez présenter pour nos auditeurs justement cette instance juridique particulière aux États-Unis, et quelle est la différence pour nous en France avec le Conseil constitutionnel? Ce sont deux choses assez différentes.
Il était différent.
Oui.
Mais maintenant, vous en France, vous avez la QPC.
Oui.
C'est la question prioritaire hein? constitutionnelle. Et ça va, je crois, transformer cette institution, le Conseil constitutionnel. Il va parler plus directement aux citoyennes, chaque citoyenne de la France. Parce que chaque citoyenne aura la possibilité de mettre devant le Conseil une question constitutionnelle. Par moyenne, il y a moyenne complexe d'y arriver, mais en tout cas, en principe, ça c'est une possibilité. Et à la Cour suprême, les questions les plus difficiles sont les questions d'interprétation constitutionnelle où la question est, comme d'habitude, un bien contre un bien.
Ah.
Parce qu'il est rare qu'on a le bien contre le mal. Par exemple, il y a des exigences de la liberté d'expression. Il y a aussi des exigences de la protection de la vie privée. Et quand les deux sont en conflit, que faire? Quand la presse veut écrire quelque chose de personnel, mais de quelqu'un qui est entré à la politique, difficile à dire. Vous avez une affaire de Caroline de Monaco. Je crois, même s'il a son intérêt personnel, mais au point de vue juridique, il a une grande importance. Parce que ces deux droits, ces deux exigences, ces deux libertés sont en cette affaire en conflit. Donc, on se voit. Mais le grand privilège pour un juge à la Cour suprême des États-Unis, c'est le suivant. Il faut se souvenir de ce que notre pays soit un pays de 309 millions de personnes. Il y a toutes les races, toutes les religions et toutes les opinions différentes. Et ma mère disait toujours qu'il n'y a pas une opinion, un avis si bizarre qu'il n'y a pas quelqu'un aux États-Unis qui ne le tient pas. Elle a dit après, ils habitent tous à Los Angeles parce que nous sommes de San Francisco. Mais en tout cas, on voit dans le siège d'un juge à la Cour suprême, toutes ces personnes avec des différences, avec des débats, avec des disputes incroyables et très très forts sentiments sur les deux côtés, ils sont décidés de résoudre leurs différences, leurs débats en le droit. Ça, c'est un miracle. Et ça, il fallait 200 ans. D'une histoire très difficile avant d'arriver à ce point. Et je le vois tous les jours.
Par exemple, l'affaire récente, vous avez débattu avec vos confrères à la Cour suprême. Vous pourriez donner un exemple, que ce soit, je ne sais pas, sur le, peut-être le mariage gay?
Oui, le mariage gay, je ne parle pas de cela parce que c'est une affaire que nous sommes en milieu de trancher cette affaire, donc je ne peux rien dire. Mais une grande affaire, c'est la question de discrimination positive. Mmh. Est-ce que la Constitution, l'amendement 14, il dit qu'il faut traiter chaque citoyenne d'une manière égale? C'est le principe d'égalité devant la loi, devant le droit. Oui. Et est-ce qu'on peut discriminer d'une manière positive? Nous avons décidé, oui, jusqu'à un certain point. C'est la différence de faire entrer quelqu'un minoritaire dans une société qu'avant était contre lui, était préjugé, et discriminer d'une manière négative contre une telle personne. Non, est-ce qu'il est possible de faire une distinction comme cela? Nous avons décidé par 5 sur 4, parce que c'est une question très difficile, oui, il est possible jusqu'à un certain point. Et quel point? Ce n'est pas possible de dire d'une manière définitive. On peut voir, on peut donner quelques exemples. Voilà, ça c'était difficile. Et nous avons reçu, parce qu'on peut, n'importe qui, si vous voulez, déposer une mémoire sur une affaire, vous le pouvez. Mais nous avons reçu dans cette affaire environ 100 mémoires différentes, des groupes différents. Mais c'est décidé pas d'une manière, on pense, au dehors des États-Unis et même dedans. Quand je parle aux étudiants, je dis, dans une telle affaire, vous pensez que la règle de décision est de la politique et vous avez tort. Mais si je dis ça, ce n'est pas de la politique, vous allez dire, naturellement, vous direz quelque chose comme ça. Mais je dis non, vraiment, ce n'est pas une question de la politique. C'est intéressant, mais c'est peut-être une question des valeurs. C'est peut-être une question des habitudes. C'est peut-être une question de quelle espèce de vie est-ce qu'on a mené jusqu'à ce point. Parce que c'est quelque chose du fond, certains sentiments de valeurs. Mais ça, c'est différent de la politique et il y a intermêlé toujours avec tout ça des questions de droit qui sont absolument impossibles de distinguer des questions de la moralité. Ils sont toutes ensemble.
Et ces questions très difficiles que vous tranchez, est-ce que ces décisions de justice ont du mal à être appliquées après ? Ou pas?
On espère que non, mais avec des grandes décisions comme ça, il y a toujours une
difficulté. Dans cette complexité.
Dans la complexité, on essaie d'être simple. On essaie d'être aussi simple que possible. Et il y aura d'autres affaires aussi pour clarifier. Et on clarifie des principes de temps en temps dans des affaires spécifiques et concrètes. Et après, on découvre que le droit s'élabore, se clarifie, et on va voir, je crois, la même chose en France, avec ce pouvoir du Conseil, de considérer les affaires après que la loi est déjà en vigueur. Ça veut dire un contrôle a posteriori au lieu de a priori. C'est technique, c'est mot, mais en actualité, ça fait une différence.
Et ça a une incidence, à vos yeux, sur la démocratie elle-même, sur le fonctionnement de la démocratie?
Ah oui. Parce que quand on considère la grande différence, il y a deux choses à dire. Oui, la première, ce document, la Constitution, c'est vraiment cette Constitution des États-Unis de 1787, 88, 89. Vraiment, c'est l'idéal des Lumières, de la France, figés. Mais ils sont les valeurs qui sont figées. Ils ne sont pas des applications. Donc, ce que nous faisons à la Cour suprême, c'est d'appliquer ces valeurs, qui ne changent pas beaucoup, aux circonstances qui changent tous les 5 minutes. Il n'y avait pas des ordinateurs pour George Washington. Comment appliquer liberté d'expression dans ce monde actuel? Et mais cette constitution, au cœur de ce document, c'est la démocratie. C'est comment créer les institutions démocratiques. Mais c'est une certaine espèce de démocratie. C'est une démocratie qui, au même temps, protège certaines libertés des personnes fondamentales, les libertés fondamentales, certaines, qui insistent sur une certaine égalité de respect, qui divise et sépare les pouvoirs entre les États et le gouvernement fédéral, entre 3 branches, présidente, législative et judiciaire. Pourquoi? Pour garantir qu'il n'y a pas un seul groupe dans le gouvernement qui devient trop puissante et qui insiste sur l'état de droit. Ça, c'est le document. Donc, vous voyez, c'est une espèce de démocratie. Et l'objet de ce travail, comme juge, n'est pas d'insister sur ses valeurs personnelles, c'est d'essayer de découvrir la signification de ces lignes, ces grandes lignes de la Constitution qui sont dans un sens des frontières. Parce que je dis aux étudiants, par exemple, c'est vous, c'est les citoyens ordinaires qui vont décider quelle espèce de ville, quelle espèce de pays, quelle espèce d'État est-ce que vous voulez. Ça, c'est le système démocratique. Mais tout ça est fait dans le cadre des grandes lignes de la démocratie et des protections des libertés humaines qui est écrit dans ce document. Et qui sont nous, les juges de la Cour suprême? Nous sommes dans un sens la police de la frontière.
Donc là, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. D'abord, la force de la Constitution américaine, quand même, parce que c'est quand même étonnant, effectivement, que plusieurs siècles après, cette Constitution soit toujours là, en place, que même si elle nécessite cette vision d'équilibriste des juges à la Cour suprême, on peut s'interroger sur le texte lui-même, sur la force de ce texte. Vous avez aussi parlé des citoyens aujourd'hui qui vont faire le droit de demain ou le droit d'aujourd'hui.
Oui.
Ça, c'est une évolution peut-être du droit. Justement, je voulais vous demander comment voyez-vous l'évolution du droit dans le cadre de la mondialisation. Vous parliez de nos sociétés où on vit à 100 à l'heure, etc. Mais on vit aussi à 100 à l'heure partout sur la planète. Enfin, il y a des discriminations, évidemment, il y a des inégalités, il y a beaucoup de choses. Mais il y a un cadre commun à tous les hommes et les femmes en ce moment. Et comment, justement, au niveau du droit, est-ce qu'il y a une évolution du droit international? Bon, évidemment, mais comment est-ce qu'on peut articuler, vous, à la Cour suprême, j'imagine que vous avez justement à cœur, et je crois que vous l'avez, d'ailleurs ce sont des idées que vous défendez, d'ouvrir, vous parliez de frontières, justement, vous étiez les gardiens de la frontière, comment faire évoluer ces frontières dans le cadre de la mondialisation au niveau du droit?
C'est ça dont je vais parler en ce discours.
D'accord.
À l'Académie.
D'accord.
Je vais dire en deux mots, pas deux, mais peut-être 20. Je vais dire que si on regarde la liste des affaires devant la Cour, on va voir un grand changement.
D'accord.
Il y a peut-être 10 à 20% qui ont pour sujet quelque chose qui implique le droit de quelque autre pays.
Donc,
par exemple, le conflit entre la sécurité des personnes et la liberté de l'homme ou de femme pour avoir un procès juste, les libertés personnelles en temps de danger de sécurité. C'est toujours un conflit. À nos jours, ce n'est pas un conflit qui est dans les frontières d'une seule nation. C'est quelque chose que les nations différentes doivent travailler ensemble. Et c'est le même avec le problème de l'environnement.
C'est exactement comment.
Oui. C'est exactement comment, avec les problèmes, c'est la même chose avec le problème de la commerce. Le problème des affaires, le problème de l'économie. On le voit tous les jours, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une question de créer un droit universel. C'est une question de coopération, de connaissance, de savoir des juges de l'un de l'autre, des pays, des pratiques.
D'échanges, de collaboration.
Oui, d'échanges, mais aussi d'avoir des moyens de découvrir comment est-ce que la France est en train de résoudre ses problèmes. On va apprendre. ou même nous recevrons, comme d'habitude maintenant, des mémoires qui sont déposées par les gouvernements, par la France, par l'Angleterre, par le Japon, ou par l'Union européenne. Ça existe tout le temps. Même dans une affaire commerciale avec le droit d'auteur, par exemple, on nous dit qu'il y aura en effet un milliard des milliards de commerce. Il faut savoir comment les décisions vont avoir des effets sur les personnes. Et ça ne comporte pas, ne comporte seulement les personnes américaines. Ça veut dire tout le monde qui doit être affecté par une décision d'un tribunal comme le nôtre.
Alors, comment le citoyen de demain devra-t-il être un peu juriste, beaucoup juriste?
Non, je ne dis pas ça, parce que je sais très bien.
Parce que c'est complexe aussi.
Oui, c'est complexe, mais ça veut dire une seule chose. Et j'adore, comme toutes les personnes qui sont dans la vie publique, il adore parler aux étudiants. Pourquoi? Parce que je peux dire à ces étudiants, et quand j'ai la possibilité, je repars. Et je dis, je ne peux pas vous dire comment mener votre vie. Être un avocat, ça c'est une possibilité. Mais quant à ce qu'on pense, 309 ne sont pas ni avocats ni juges. Comment? Que faire? Je dis, j'espère que vous allez trouver quelqu'un pour aimer. J'espère que vous allez quelqu'un, quelque poste qui vous intéresse. Et j'espère que vous allez participer aux affaires de votre ville, pays, continent, public, ces affaires. Il y a des moyens extraordinaires, il y a tant de moyens de participation, mais je ne peux pas vous dire que faire. Mais je peux vous dire que ce document, cette Constitution des États-Unis, ne marchera pas, il ne fonctionnera pas si vous ne participiez pas à vos affaires civiques. Et c'est ça. Je veux les intéresser, cette citoyenne. J'explique ça, mais il faut transmettre nos valeurs pour qu'il va participer, pour qu'il va connaître, il va savoir quelque chose de leur histoire. Il va savoir quelque chose de leurs organes de gouvernement. Ils vont savoir et ils vont en prendre en compte pour une participation active dans les affaires de leur communauté.
Le plus important à vos yeux pour cette démocratie sur laquelle Tocqueville avait déjà beaucoup écrit.
Oui, c'est un génie, Tocqueville. Il avait raison.
Je sais que vous avez déjà parlé de Tocqueville à l'Académie des sciences morales et politiques autrefois, que vous disiez me faisait penser aussi à tout ça. Pour terminer, je vois que vous êtes sur la même longueur d'onde, si je puis m'exprimer ainsi, avec Mireille Delmas-Marty quand elle parle de force imaginante du droit.
Je pensais à ce que vous étiez
en train de dire en appelant les jeunes générations et les citoyens à prendre pleinement pied dans la société. Monsieur le juge, comment voyez-vous justement par votre élection au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, en tant qu'associé étranger au sein de cette académie, quel rôle pensez-vous jouer ou quelle mission donneriez-vous à cette élection?
Cela me donne plus de possibilités de rester en contact avec les Français. Mais vraiment, c'est un honneur, c'est un moment personnel, mais aussi c'est un effort de renforcer, je crois, des liens entre une grande institution de la France, et une grande institution, la Cour suprême des États-Unis. Ça, c'est très bien, parce que depuis des siècles, les Français et les Américains sont amicaux, mais plus que ça. Ils sont en empreinte l'un de l'autre. C'est l'idée des Lumières, comme j'ai dit, qui ont influencé, qui existent dans la Constitution des États-Unis. Et dans le monde actuel, je crois que cette coopération, ce renforcement des liens est de plus important pour l'avenir, même pour le passé. Et donc, je suis fier, je suis très heureux de jouer un rôle dans cet effort.
Nous vous remercions, Monsieur le juge.
Merci.